Bonjour à tous. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Olivier Vieviorca à l'occasion de l'apparition chez l'éditeur Perrin de son dernier ouvrage qui s'intitule « Une histoire de la résistance en Europe occidentale ». En 2013, Olivier Vieviorca avait fait paraître aux mêmes éditions Perrin « Une histoire de la résistance ». 1940-1945. Les titres sont assez proches, mais en réalité, il s'agit de deux études, de deux synthèses distinctes. En effet, Histoire de la résistance 1940-1945 est consacrée à la résistance française et, même plus précisément, à la résistance intérieure. Alors que celui-ci s'intitule « Une histoire de la résistance en Europe occidentale » et il adopte une focale tout à fait différente. Il prend le point de vue des institutions anglaises et américaines qui se trouvent à Londres principalement, mais aussi à Washington, qui vont se préoccuper des résistances en Europe de l'Ouest, c'est-à-dire plus précisément en France, en Belgique, dans les Pays-Bas, au Danemark, en Norvège et également en Italie à partir du débarquement anglo-américain en Sicile, c'est-à-dire en 1943. Alors ce qui intéresse les anglo-américains, c'est principalement la guerre et la victoire. Et donc, si les résistances intérieures dans les différents pays que je viens de citer les intéressent, c'est principalement pour des raisons militaires. Hein. Bon, voilà. Alors, je voudrais vous poser comme première question pourquoi, cette fois-ci, cette focale portée donc sur ces liens entre les Anglo-Américains et donc les résistants en Europe de l'Ouest.
Très bien. Donc bonsoir à tous et à toutes. Je remercie la librairie Mola de cette invitation. Et donc je dirais qu'il y a deux éléments. Le premier élément, c'est que les historiens de la résistance en France, aux Pays-Bas, en Belgique, ont privilégié le cadre national. Pour des raisons, si vous voulez, techniques, les archives sont disponibles dans ces pays. Pour des raisons également, ai-je envie de dire, un petit peu idéologiques, dans la mesure où, dans tous les pays d'Europe de l'Ouest, eh bien, la résistance a aidé à construire ce qu'il est convenu d'appeler le roman national, et donc que les historiens ont voulu soit contribuer à cette édification du roman national, soit, au contraire, le miner, le déconstruire. Mais, dans tous les cas, il manque une dimension importante, et cette dimension importante, ce sont les alliés. Et c'est un petit peu la thèse que défend ce livre, c'est que si, bien entendu, les résistances nationales se sont développées, sont nées de manière spontanée, je veux dire les Français pour cacher des armes, les Norvégiens pour cacher des armes, les Danois pour imprimer des journaux clandestins, n'ont pas attendu les alliés, les résistances n'auraient pas pu se développer sans l'aide des Anglo-Américains qui fournissent hommes, matériel, armes, argent. Ça, c'est la première raison. La seconde raison qui est subliminale, c'est que ce livre a été écrit en 5 ans, hein, au moment où vous aviez les événements que nous connaissons en Irak, en Syrie, en Libye. Et tout cela a bien évidemment contribué à faire réfléchir, et à faire réfléchir à plusieurs choses. Le premier élément, c'est de savoir si on peut mener une guerre subversive. Voilà. Hein. Moi, j'ai discuté avec des amis qui me disaient « Pourquoi on ne parachute pas des armes aux Syriens ?» Et là, on a vraiment une étude de cas. Il y a tout un passage sur la difficulté de parachuter des armes, la difficulté de les réceptionner, la difficulté de les stocker. Et voilà, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis, l'autre élément qui est assez intéressant et qui s'oppose aux alliés, c'est qui doit-on reconnaître comme pouvoir ? On a une faction en Libye, on a une faction en Syrie. Est-ce qu'on doit les reconnaître ? Eh bien, cette question, elle s'est posée aux alliés par rapport à De Gaulle, par rapport voilà, je vais faire un parallèle. Est-ce qu'on doit continuer à reconnaître en Italie libérée le roi Victor Emmanuel et son premier ministre Badoglio, qui ont été quand même extrêmement compromis? Et dans ma tête, je pensais, est-ce qu'on doit reconnaître Saddam Hussein? Voilà. Donc c'est un petit peu, si vous voulez, ces deux éléments qui expliquent que j'ai souhaité écrire ce livre.
Voilà. Donc il y a d'un côté des éléments strictement militaires et de l'autre, il y a des éléments que l'on pourrait qualifier d'idéologiques ou de politiques qui concernent l'avenir de ces pays, en définitive, de ces populations. Alors, on aurait pu, bon, bien sûr, alors, il y a un terme qui m'a frappé, c'est le mot d'efficacité. Au fond, les anglo-saxons sont dominés par une pensée de l'efficacité. Hein, c'est ça leur préoccupation principale, à laquelle on peut ajouter aussi des raisons de coûts, de coûts financiers aussi. Hein, bon. Alors que dans ce que vous appelez les romans nationaux, finalement, on assiste à une certaine héroïsation des résistants. Bien, héroïsation qui, le temps ayant passé, que l'on peut peut-être critiquer sous certains aspects. Mais il me semble que c'est très important quand même, enfin, tout cela, parce que au fond, les Anglais et les Américains vont privilégier donc certains résistants, vont établir des relations très étroites avec certains d'entre eux et pas avec d'autres. Notamment pour ce qui concerne la livraison d'armes, par exemple. Alors, on sait très bien, quand on lit tous les travaux sur les résistances en Europe ou en France, pour commencer, qu'il y avait des Anglais, par exemple, du SOE, qui étaient présents en France. Et par exemple, dans la région bordelaise, il y avait, par exemple, le résistant Land, qui était très important. Hein, et qui a fait assassiner d'ailleurs Grand Clément, André Grand Clément, à Sognac et Muret au mois de juillet 1944. Et le premier geste de Gaulle quand il est arrivé à Bordeaux, ça a été d'expédier Roger Land à Londres immédiatement. Et il y a eu d'ailleurs la même attitude de Gaulle quand il est arrivé à Toulouse, avec Ravanne, enfin, où il y avait aussi des Anglais du SOE, et c'est la même chose. De Gaulle a pris immédiatement la situation en main et s'est débrouillé pour que les responsables du SOE fichent le camp en Angleterre immédiatement. Donc les rapports entre De Gaulle et ces gens du SOE ou de l'OSS américaine étaient relativement tendus. Est-ce que vous pourriez nous en parler ?
Alors, si vous voulez, je reprends un petit peu ce que vous avez dit. L'un des problèmes, si vous voulez, la chronologie est importante. Le problème en 1940, c'est que le Royaume-Uni est seul. Bon. Et donc, il sait qu'il ne va pas perdre la guerre puisqu'il a remporté la bataille d'Angleterre, mais il ne sait pas comment il va encore gagner la guerre. Or, quelles sont ses options ? Eh bien, ses options sont très limitées. Il n'a absolument pas les moyens de prévoir un débarquement. Donc, dans les options, vous avez la Royal Navy, vous avez la Royal Air Force. L'idée, donc, qu'on va attaquer l'Allemagne sur les théâtres périphériques, là où elle est le plus faible, donc l'Afrique du Nord, l'Allemagne et l'Italie. Mais, dans ces options, la guerre subversive. Il y a l'idée très fortement ancrée chez les Britanniques que l'on peut aider les peuples à se soulever. Et ceci est à la confluence de deux traditions. Première tradition, une tradition britannique qui considère la guérilla comme une chose sérieuse, et donc là, on n'est pas du tout dans la pensée, par exemple, d'un général de Gaulle. Pourquoi considère-t-il que la guérilla est une chose sérieuse ? Parce qu'ils l'ont subi. Guerre des bourgs en Afrique du Sud, indépendantistes irlandais dans les années 20. Donc, ils ont une connaissance de la guérilla, et ils l'ont parfois utilisée avec Lawrence d'Arabie. Bon. Et l'autre élément qui structure leur réflexion, c'est une réflexion de gauche, et la réflexion de gauche, c'est que un peuple sous la botte se révolte. Et là, on est quand même pas très loin de la révolution russe. Et donc, vous avez l'idée, c'est assez fascinant quand vous lisez les archives, vous avez un optimisme absolument délirant, où en 1940, ils se disent, il va suffire d'allumer la mèche et on va avoir la révolution. Vous avez même le ministre qui s'occupe des services spéciaux, qui s'appelle Hugh Dalton, qui va convoquer un séminaire, un symposium en 1940, en disant, comment peut-on techniquement déclencher une révolution ? Alors, pour mener cette guerre subversive, puisque vous avez évoqué les aspects militaires, pour mener cette guerre subversive, les Britanniques puis les Américains vont pouvoir utiliser trois leviers. Le premier levier, c'est bien sûr les services secrets. Services secrets qui vont collecter des renseignements, c'est la tâche de l'Intelligence Service, mais également d'un service action, le SOE, Special Operations Executive, qui est chargé, suivant les mots de Churchill, d'embraser l'Europe. Donc, première idée, on va créer des services secrets, et ces services secrets, eh bien, on va envoyer des hommes qui vont avoir pour tâche, dans toute l'Europe de l'Ouest, d'encadrer cette résistance naissante, en leur envoyant des armes, en leur apprenant le maniement des armes, etc., etc. Le second levier que j'étudie, c'est la propagande. C'est-à-dire qu'il va falloir essayer de favoriser une propagande qui permette au peuple de relever la tête. Et puis, le troisième élément, c'est une gestion des pouvoirs en exil. Est-ce que l'on va reconnaître le général de Gaulle ou non? Mais la question qui se pose pour le général de Gaulle se pose également pour les Danois. Bien. Donc, vous avez tout cela qui se met en place, et bien entendu, un certain nombre de problèmes vont se poser, et là je réponds à votre question, qui est que dans l'Europe entière, vous allez avoir des résistances intérieures qui vont poser la question de leur liaison avec, comme on dit, Londres, mais cette liaison avec Londres, elle est double. Vous avez d'une part une liaison avec les autorités britanniques et américaines, donc quel type de rapport entretient-on? Est-ce que ce sont les Britanniques qui décident? Et la résistance intérieure obéit. Mais la résistance intérieure, elle est également confrontée à un autre problème. Et ce problème, c'est le rapport qu'elle a avec les pouvoirs en exil. C'est un problème compliqué, car vous avez à la louche deux grands cas de figure. Certaines fois, vous avez dès 1940 des pouvoirs réguliers qui ont rejoint l'Angleterre. C'est l'exemple de la Norvège, avec le roi et le cabinet. C'est le cas des Pays-Bas, avec la reine, Wilhelmina, et son cabinet. C'est un cas un peu plus compliqué avec la Belgique, car le roi Léopold est resté et le cabinet dirigé par Hubert Pierlot est parti.
Du moins quatre ministres.
Voilà, avec quatre ministres. Et les autres au Danemark, en France et en Italie, on a des pouvoirs réguliers qui continuent d'assumer le pouvoir. Donc la résistance, elle est obligée de régler son rapport avec les pouvoirs en exil. Est-ce qu'elle va obéir à de Gaulle? Est-ce qu'elle va obéir à la reine Wilhelmina? Etc., etc. Elle est obligée de régler son rapport également avec les Britanniques, puis les Américains. Alors, du coup, vous voyez, on a un billard à trois bandes. Londres et Washington, les résistances intérieures et les pouvoirs en exil. Alors, ces pouvoirs en exil, de Gaulle, le roi norvégien, etc., etc., ce qu'il y a d'assez intéressant à voir, c'est qu'eux-mêmes sont ambivalents. C'est quoi leur rôle? Quelque part, ils témoignent que, au cœur de la tourmente, la Norvège, la France, les Pays-Bas restent alliés du Royaume-Uni, des États-Unis, de l'Union soviétique, et donc participent à l'effort de guerre. Donc ils se conçoivent donc comme des représentants d'un pays qui continue la guerre. Mais dans le même temps, ils se perçoivent aussi comme les porte-parole d'une nation souffrante. Et donc, tantôt, ils vont favoriser l'action, dire que la résistance doit se développer dans les pays, etc., etc. Et tantôt, au contraire, parce qu'ils ont, par exemple, peur des représailles, ils vont freiner la résistance en disant « non, le coût est trop élevé pour la population ». Et donc, à toutes ces questions s'ajoute également une autre, et cette question, c'est celle de la défense de la souveraineté. En d'autres termes, est-ce que les pouvoirs en exil peuvent laisser leur pays être le petit théâtre de guerre des Britanniques et des Américains? Alors, j'ai donné un exemple. En 1941, les Britanniques, en s'appuyant sur des résistants extérieurs, sur des volontaires norvégiens, dirigés par quelqu'un qui s'appelle le capitaine Linge, décident de monter un raid sur les îles Lofoten. Alors, les îles Lofoten, c'est un petit archipel qui est au nord-ouest de la Norvège et qui présente l'intérêt d'avoir des usines d'huile de hareng. Alors, vous allez me dire que c'est un objectif militaire assez limité, mais les usines d'huile de hareng fabriquent de la vitamine B. Et cette vitamine B est très importante pour les équipages des sous-marins allemands parce que, bien entendu, c'est un apport vitaminique tout à fait important. Et donc, les Britanniques disent « il faut détruire ces usines de hareng ». Ils envoient donc un raid, font sauter les usines de Haran, capturent des Allemands et ramènent des volontaires norvégiens. Sauf que, donc, c'est également un moyen, vous l'avez compris, de montrer que le vieux lion britannique n'a pas les griffes tout à fait élimées et qu'il est encore capable de frapper l'Europe qui est sous domination nazie. Sauf que, une fois que le commando est reparti, les Allemands se vengent, brûlent des maisons, déportent une partie des habitants qui ont fait, bien entendu, un excellent accueil. Et donc là, le roi de Norvège et le ministre des Affaires étrangères, Trygve, qui deviendra secrétaire général de l'ONU, écument en disant « Vous êtes dingue. Pour quelques usines de Haran, vous avez provoqué le chaos. » Donc, l'un des éléments qui est important, c'est que tous les pouvoirs en exil, qu'il s'agisse des pouvoirs réguliers ou des autorités de fait, je pense au général de Gaulle, ont à cœur de défendre la souveraineté de leur pays. Dans le cas norvégien, cela se passe bien, c'est-à-dire que les Norvégiens sont les bons élèves. Les Britanniques vont accepter de soumettre les opérations qu'ils vont mener ou qu'ils vont ordonner à la résistance intérieure. Ils vont accepter de soumettre ces opérations donc à un comité paritaire qui associe les Britanniques d'une part et les Norvégiens de l'autre et qui va décider des opérations, bien, pas bien. Mais dans d'autres cas, et c'est le cas, bien entendu, de la France, eh bien, la coopération se passe mal, tout simplement parce que de Gaulle n'a pas les chines souples, parce que les Britanniques aimeraient se passer de Gaulle, etc., etc. Donc on a parfois des relations extrêmement conflictuelles entre les pouvoirs en exil, les résistances intérieures, Londres, puis Washington.
Et puis en France, les Américains en particulier entretiennent un double jeu avec Vichy, avec Pétain, hein, notamment en Algérie.
Alors, bien entendu, ce livre n'est pas consacré à la France. Oui. Et j'ai essayé justement de sortir du cadre hexagonal. Mais tous les pays, pour dépasser le cadre de la France, tous les pays posent un problème aux Britanniques et aux Américains qui est, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on saute dans le noir ou est-ce qu'on essaye de maintenir des contacts avec des pouvoirs réguliers ? Et ce cas se pose pour la France parce que Vichy, c'est la flotte, parce que Vichy, c'est l'Empire. Donc ça serait bien de pouvoir essayer d'agir sur Pétain pour le faire basculer. Mais le problème se pose également au Danemark. Au Danemark, on a un roi tout à fait bien, hein, Christian. Il faut dire que le Danemark est un cas absolument hallucinant. En avril 1940, les Allemands envahissent le Danemark. La guerre dure 4 heures. Vous avez moins de 20 morts. Et les Allemands, en fait, passent un deal avec les Danois en leur disant « Écoutez, on vous laisse votre gouvernement, on vous laisse votre roi, on vous laisse votre armée, mais on ne veut pas d'ennui et vous coopérez sur le plan économique avec nous. » Et les Danois disent « Banco ». Donc pendant 2 à 3 années, le Danemark va vivre une situation qui est extrêmement éloignée de celle que connaissent les Belges, etc., etc. Sauf que les résistants danois commencent à écumer. Les résistants danois commencent à écumer en disant bah, « ce statu quo, c'est bien, mais en même temps, vous encouragez dans une certaine mesure, alors peut-être pas la collaboration, mais c'est ce que mon collègue, l'historien suisse Philippe Burin, appellerait l'accommodation. Où est le problème ?» Et la situation devient encore plus tendue en mars 1943, quand le protecteur allemand du Danemark, qui est un nazi extrêmement intelligent, Werner Best, dit « Le Storting, le Parlement danois, arrive au bout de son mandat, organisons de nouvelles élections. » Et donc là, Werner Best laisse des élections parfaitement libres se dérouler. Vous imaginez le coup de pub.
À l'exception du Parti communiste.
À l'exception du Parti communiste. Vous imaginez le coup de pub sur le mode, regardez, on dit que les nazis sont des méchants, mais nous, on laisse les élections se dérouler de manière tout à fait libre. Et effectivement, elles se déroulent de manière tout à fait libre. Et là encore, les Britanniques sont très embarrassés. Que faut-il faire ? Est-ce qu'il faut maintenir un gouvernement qui n'est pas un gouvernement pétainiste, qui veut nazifier le pays ? Voilà. Mais en même temps, cela risque de décourager la résistance. Qu'est-ce qu'on fait ? Et donc là, la situation va être dénouée par la résistance intérieure, qui va, de sa propre initiative, commencer à lancer une campagne d'attentats. Vous aviez très peu d'attentats en 40, un peu plus en 41, un peu plus en 42, et en 43, tout pète. Vous avez plus de 800 attentats. Et donc Werner Best convoque le Premier ministre Scavenius, et lui dit, vous êtes bien gentil, mais moi, ce que je veux, c'est la loi et l'ordre. Donc, vous allez me capturer les résistants danois et vous allez les fusiller. Et bien évidemment, Scavenius ne peut absolument pas prendre cette mesure. Et donc, il démissionne et, de cette manière, lève l'équivoque. Ce que je veux dire, en d'autres termes, c'est que le jeu de troupes que vous évoquiez autour de Pétain, est-ce qu'on essaye de reconnaître Pétain ? Eh bien, on le retrouve au Danemark et on le retrouve aussi en Italie. En Italie, où, après la chute de Mussolini en juillet, vous allez avoir un nouveau gouvernement...
Juillet
1943, vous allez avoir un nouveau gouvernement dirigé par Badoglio, qui est un militaire un peu en délicatesse avec le régime, mais qui a quand même bien été fasciste jusqu'en 1940, qui prend le pouvoir. Et après l'armistice qui est conclu entre l'Italie et les Anglo-Américains en septembre 1943, le roi et Badoglio filent dans le sud de l'Italie et établissent donc un gouvernement. Et cela pose un problème, bien entendu, aux Anglo-Américains. Que doit-on faire ? Est-ce qu'on doit continuer à soutenir ce gouvernement qui révulse les antifascistes italiens, mais qui en même temps garantit la loyauté de l'armée, garantit une administration, ou est-ce qu'au contraire, on doit le combattre ? Donc vous avez toujours ce problème qui est, doit-on ou non sauter dans l'inconnu ? Et je pourrais ajouter, doit-on préférer, suivant le mot de Goethe, l'injustice au désordre ? Ce qu'il y a d'assez intéressant, et pardonnez-moi cet anachronisme, c'est que, en Italie, les Anglo-Américains préfèrent l'injustice au désordre, mais du coup, vous avez des maires qui font tourner la boutique, vous avez des préfets, alors voilà, souvent c'est encore des préfets fascistes, où vous avez une épuration extrêmement légère, mais qui fait que le pays fonctionne. En Irak, vous le savez, toute l'administration a été renvoyée, et c'est le chaos. Donc voilà, c'est une étude de cas tout à fait intéressante. Ce que je voulais dire pour conclure, c'est que De Gaulle n'est pas une exception. Tous ces problèmes de souveraineté, est-ce qu'on va reconnaître, pas reconnaître, etc., etc., se sont posés dans les 6 pays que j'envisage.
Alors effectivement, la comparaison est toujours très intéressante. Vous montrez qu'il y a des problèmes qui sont en quelque sorte structurels, mais vous montrez aussi qu'il y a dans chaque situation des éléments qui sont tout à fait particuliers et qui rendent chaque situation éminemment complexe. Alors, dans le cas de l'Italie, il se trouve qu'une moitié de l'Italie, alors que, bon, d'abord, Mussolini est fait prisonnier, mais les Allemands vont le délivrer et il va monter sa République de Salo dans le nord de l'Italie, ce qui complexifie encore la situation, puisque vous avez donc le sud de l'Italie qui est sous gouvernement du roi et de Badoglio, puis ensuite de
Bonomi.
Voilà, qui est socialiste, alors que tout le nord de l'Italie, au-dessus de Florence, Florence Rimini, c'est la République de Salo, et la guerre continue, avec des mouvements de résistance, parce que les Allemands se déchaînent, en particulier contre les résistants italiens, avec le massacre de Marzabotto, par exemple, bon, etc., etc. Donc l'Italie est en même temps, dans la partie nord, en guerre aussi. Hein, enfin, une guerre, et d'ailleurs, le front évolue lentement. Bon, donc tout ça, effectivement, c'est absolument passionnant parce que vous nous montrez ces éléments, à la fois ces éléments structurels et en même temps la complexité des situations dans chacun des cas, dans chacun des pays que vous étudiez. Et même, on peut aller encore plus loin. On s'aperçoit que dans toutes les organisations, les institutions, il y a des différences de personnes aussi. Hein. Il n'y a pas forcément une identité de position et d'attitude entre, par exemple, en Angleterre, Churchill et son ministre des Affaires étrangères, Anthony Eden, ou même en France, entre différents mouvements de résistance. Il n'y a pas non plus unanimité.
Oui. Alors, l'une des grandes interrogations, c'est de savoir à quoi doit servir la résistance. Bon. Alors, il est clair, si vous voulez, que globalement, après l'effervescence de 1940, vous allez avoir l'Union soviétique d'abord, puis les États-Unis ensuite, qui vont entrer dans la guerre. Donc les Britanniques vont pouvoir revenir à une forme plus canonique de la guerre, ce qui veut dire que la guerre subversive va perdre de son attrait grâce à l'armée rouge, grâce aux boys, on va pouvoir gagner la guerre de manière classique. Ce qui ne veut pas dire que la guerre subversive est disparue. La guerre subversive, elle va avoir, au fond, plusieurs volets. Le premier volet, c'est que l'idée sera de confier à des professionnels, à une petite élite, donc le SOE, des mouvements, des réseaux, eh bien, le soin de frapper le dispositif défensif allemand à certains endroits. L'un des éléments les plus connus, c'est bien sûr l'attaque menée contre l'usine qui fabrique de l'eau lourde, un composant important pour la bombe atomique. Et vous allez avoir donc des résistants infiltrés par le SOE qui vont dynamiter cette usine de l'eau lourde et donc mettre un coup d'arrêt à la recherche nucléaire. Nous sommes en 1943, donc voilà un petit peu ce que l'on attend. Par ailleurs, les masses, eh bien, ce que l'on attend des masses, ce n'est en aucun cas qu'elles ne s'insurgent. Hein, il n'y a plus du tout cette flamme révolutionnaire. L'idée, c'est qu'elles travaillent lentement, d'où les campagnes de Go Slow. Hein, go Slow, Go Slow, martèle la BBC, pour éviter de soutenir l'effort de guerre nazie. Et puis, l'autre idée, c'est de montrer, au fond, que les occupants ne sont pas populaires, et donc d'opposer, au fond, à la morgue des nazis, le silence de la mer, hein, aurait dit Vercors. Et alors, l'un des éléments assez intéressants, si vous voulez, c'est que vous allez avoir donc des campagnes qui vont être menées par la BBC à la radio pour, quand même, montrer aux Allemands qu'ils ne sont pas les bienvenus. Et dans ces campagnes, l'une des campagnes qui est une campagne européenne est la campagne des V. Alors, la campagne des V, c'est le speaker francophone de la BBC, Victor de Lavelay, suggère aux Belges de tracer des V à la craie. Et c'est l'enthousiasme. C'est l'enthousiasme en Belgique, mais c'est l'enthousiasme également dans toute l'Europe de l'Ouest, où voilà, vous avez 5000 V qui sont tracés à ligne en une journée, donc la police essaye d'effacer, etc. Et donc, vous avez véritablement eu un énorme engouement pour cette forme, sinon de résistance, du moins d'opposition. Mais ce qu'il y a d'intéressant, et je n'ai pas perdu le fil de votre question, c'est que le succès est tel que les Britanniques commencent à paniquer. Parce qu'ils se disent qu'avec ces V, ils sont en train de mobiliser les populations, mais qu'ils savent en même temps que le débarquement n'est pas pour demain. Et donc qu'on risque d'amener les populations au bord du Rubicon, qu'on risque de les porter à l'incandescence sans ensuite pouvoir soutenir une action insurrectionnelle, ce qui fait que la BBC va interrompre en 1942 cette campagne des V, non en raison de son insuccès, mais au contraire en raison de sa bonne fortune. Ce qui veut dire que, ensuite, l'action que l'on attend des résistants, eh bien cette action que l'on attend des résistants sera de participer au moment du débarquement à des actions qui viseront à aider les troupes régulières, et notamment des sabotages ferroviaires, la perturbation des lignes de communication, etc. etc. Donc, tous ces éléments composent en quelque sorte la doctrine d'action du SOE et de son homologue américaine, l'OSS, bien connue par les films de Dujardin, voilà, qui naît en 1942 et qui se charge de mener ce type d'action. Et donc, tout le problème qui va se poser sera bien sûr celui de l'articulation, et c'est pour ça que l'Italie est assez intéressante, de l'articulation entre les résistances intérieures d'une part et la grande stratégie de l'autre. Et de ce point de vue-là, il faut formuler deux remarques. La première remarque, c'est que il y a au fond des malentendus. Par exemple, on pourrait s'attendre à ce que, au moment du débarquement, l'ordre soit donné de détruire au maximum, de détruire des ponts, de détruire des voies ferrées. Et en fait, ce qui inquiète énormément les Britanniques et les Américains, c'est au contraire de préserver ces ponts, ces centrales électriques qui sont vitales pour le redémarrage de l'économie. Voilà, donc, contrairement à ce que l'on croit, on attend beaucoup plus des résistants qu'ils protègent. Et l'exemple canonique, c'est celui du port d'Anvers. Hein, les Belges réussissent à sauver le port d'Anvers, mais on attend également beaucoup d'actions de ce type. Alors, d'actions de ce type autour des centrales électriques, des voies ferrées, etc., etc. Et le second élément qui inquiète, c'est que les résistances, et vous avez donné le cas de l'Italie sur lequel je vais revenir, créent dans une certaine mesure un pouvoir autonome. En Italie, donc, le pays est coupé en deux. En gros, je n'entre pas dans les détails, le sud dépend du tandem Badoglio-Vittorio Emmanuel, et le nord, eh bien, vous avez une sorte de Conseil national de la résistance qui s'appelle le CNLAI, qui gère en Italie la résistance. Et tout le problème qui se pose va être, bien entendu, le risque d'un double pouvoir. Est-ce que le CNLAI va obéir aux ordres de Rome? Est-ce qu'il va obéir aux ordres des Alliés?
Et ce problème que l'on a en Italie se retrouve en France, se retrouve au Danemark, où la résistance déteste ce qu'elle appelle les vieux partis, se retrouve également en Norvège. Et donc la peur des Anglo-Américains, c'est qu'il y ait ce double pouvoir avec, vous l'aurez compris, le risque d'un putsch communiste. Et donc tout le travail des Anglo-Américains sera d'encourager une entente entre la résistance intérieure et la résistance extérieure. Cette entente, elle est, dans le cas français, réalisée par De Gaulle via Jean Moulin, qui va créer, comme vous le savez, le Conseil national de la résistance. Mais vous avez d'autres structures qui permettent d'incarner cette union. Un gouvernement, le Comité français de libération nationale, qui va s'élargir et s'élargir jusqu'aux communistes en avril 1944, mais également une assemblée consultative provisoire. Mais en Italie, le Nord qui est coupé du Sud, eh bien le CNLI fait allégeance en décembre 1944 auprès des alliés, promet d'obéir aux ordres alliés et promet d'obéir au gouvernement de Rome. Mais à l'inverse, le gouvernement de Rome considère le CNLI comme une antenne, en quelque sorte, de son pouvoir et, toujours en quelque sorte, l'adoube.
Alors, pour en revenir au cas français, j'ai été amusé par ce qui se passe avec De Gaulle au moment du débarquement en France, les Américains étant très, très soucieux de canaliser au maximum De Gaulle et les gaullistes, et De Gaulle qui va jouer d'une grande habileté pour finalement mettre en place très vite, en Normandie notamment, des préfets, par exemple, Raymond Triboulet, il me semble.
Oui, sous-préfet.
Sous-préfet. Et De Gaulle va se débrouiller, en définitive, pour prendre la main. Et notamment, il va aussi, mais là, c'est lui qui va en profiter, mais ce sont les communistes qui déclenchent l'insurrection à Paris, alors que Eisenhower veut contourner Paris, ne veut pas prendre Paris parce qu'il craint qu'il arrive, que se produise à Paris ce qui s'est passé à Varsovie, c'est-à-dire l'écrasement de la résistance et la destruction de la ville. Et en définitive, De Gaulle va jouer d'une très grande habileté, là, à la fois à l'échelon local et à l'échelon national.
Alors, l'exemple de De Gaulle est bien entendu tout à fait intéressant, et j'y reviendrai, mais le problème qu'ont les Anglo-Américains, il faut bien se rappeler qu'au moment où les GIs et les Tommies s'élancent sur les plages normandes, la partie n'est pas gagnée et que la guerre, on craint qu'elle ne dure longtemps. Donc, le problème cardinal des Britanniques et des Américains, et bien entendu que la résistance favorise, facilite la progression des troupes alliées. Mais l'autre élément également, c'est que la loi et l'ordre, law and order, ça revient constamment dans les archives, la loi et l'ordre soient maintenus. Alors, parfois, c'est embêtant pour les Anglo-Américains, ils ont affaire à une personnalité trop forte. C'est l'exemple de De Gaulle. Contrairement à ce que l'on affirme, les Américains n'ont jamais pensé à mettre la France sous un gouvernement militaire. Il n'a jamais été question de faire une AMGOT. Donc là, on est dans le fantasme gaulliste. Mais en revanche, ce que les Anglo-Américains veulent, c'est pas de problème. Et ils aimeraient avoir un droit de regard sur la manière dont les responsables sont choisis. Et De Gaulle va contourner cela en nommant lui-même ses hommes grâce à l'aide de la résistance. Mais parfois, les pouvoirs sont trop faibles. Et c'est l'exemple de Pierre Loh. En Belgique, Pierre Loh, il a un gouvernement qui est étroit, il n'est pas très populaire. Aujourd'hui encore, vous n'avez aucune rue à Bruxelles qui porte son nom. Et donc, on se demande s'il va pouvoir tenir le coup. Voilà. Et puis, en Italie, il y a la peur d'un putsch communiste qui est extrêmement, extrêmement vive. Donc, les Britanniques et les Américains sont obligés d'inventer des solutions. Hein. Alors, dans les solutions retenues, vous avez... par exemple, l'idée de distribuer les armes, par exemple, de manière un peu sélective. L'autre élément, c'est également d'envoyer des missions auprès des maquis, auprès des résistants. Les missions Jedburgh sont assez connues, puisqu'elles groupent, vous le savez, trois personnes des trois nationalités, dont un ressortissant du pays considéré, français pour la France, mais ne l'oublions pas, vous avez aussi des JED qui ont été envoyés en Belgique et aux Pays-Bas. Donc à chaque fois, vous avez ces équipes triplement nationales. Mais en Italie aussi, eh bien, on va envoyer, le SOE notamment, va envoyer des missions dans les maquis ou dans ce que l'on appelle les zones libérées, c'est-à-dire les espaces que contrôle la résistance italienne et qui forment, si vous voulez, des petites républiques provisoires.
C'est ça, provisoire, oui, quelquefois.
Voilà, des petites républiques provisoires pour essayer à la fois un peu de les contrôler, mais également pour stimuler leur combativité.
Oui, alors il est important de tenir compte de la chronologie dans tout ça. Et certains pays vont être libérés par les armées américaines, enfin, anglo-américaines relativement vite, même si la France, toute la France n'est pas tout à fait libérée, même à la fin 1944, hein, puisqu'il y a une partie de l'Est qui est encore sous la botte allemande. Mais d'autres pays vont connaître une situation plus difficile, les Pays-Bas, par exemple, puisque les Anglo-Américains ont des difficultés à franchir le Rhin ou toutes les rivières, vous citez, là, qui empêchent de progresser vers le nord des Pays-Bas. Et quant à la Norvège et au Danemark, ils ne seront jamais libérés, si je puis dire. C'est l'armistice du 6 juin 1945 qui va les libérer des Allemands.
Oui, donc la manière dont la libération s'est organisée a été très différente, et donc le rôle assigné à la résistance a été très différent. En Italie, ce que demandent les Anglo-Américains qui peinent à remonter, vous l'avez rappelé, ils débarquent en Sicile le 10 juillet 1944 et Rome le 10 juillet 1943, pardon, et Rome ne tombe qu'en juin 1944. Donc vous avez la propagande allemande qui ironise en montrant un escargot qui remonte très lentement la péninsule italienne. Rappelons que l'Italie n'est totalement libérée qu'en avril 1945. Bon, donc vous imaginez à quel point la bataille a été sanglante. Donc, ce que l'on attend de la résistance en Italie, c'est qu'elle fixe des divisions allemandes. Vous avez à peu près 25 divisions allemandes qui combattent sur le théâtre italien, et la résistance italienne est créditée d'avoir fixé 6 divisions, ce qui, bien entendu, réjouit le général Alexander en charge de ce théâtre d'opération. Parfois, en revanche, la libération va beaucoup plus vite. C'est le cas de la France. Les Alliés débarquent le 6 juin 1944 et De Gaulle est à Paris le 25 août 1944. C'est absolument miraculeux.
Alors en France, il y a un élément important. C'est le débarquement de Provence.
Oui.
Parce que suite à ce débarquement de Provence, le 15 août 1944, les Allemands d'eux-mêmes évacuent tout le sud de la France.
Oui. Donc vous avez effectivement, suite à ce débarquement, un ordre de retraite qui est donné par Hitler et qui va permettre d'accélérer la remontée des forces franco-américaines. Et puis, vous avez des libérations éclairs qui, là, portent en elles le germe de troubles à venir. C'est le cas de la Belgique. La Belgique est libérée en 2 jours. Et donc, les résistants sont extrêmement frustrés parce qu'ils n'ont absolument pas le temps d'agir. Et donc, c'est cette frustration qui va expliquer à la libération la difficulté que les résistants ont à remettre les armes, une difficulté telle qu'elle va amener à une grande manifestation en novembre 1944, ils protestent contre leur désarmement, ils sont extrêmement frustrés, extrêmement déçus, ils envahissent ce qu'on appelle la zone neutre, et donc là, les Britanniques qui sont en charge du maintien de l'ordre en Belgique ne rigolent pas, tirent, vous avez de très nombreux blessés, et le général Erskine, patron des forces britanniques, convoque les leaders communistes belges en leur disant « assez rigolé ». Si vous ne maintenez pas l'ordre et si vous ne dites pas à vos camarades de déposer les armes, cela sera sanglant. Et à partir de ce moment-là, vous avez un dépôt d'armes. Et puis, d'autres fois, on a des libérations tragiques. C'est le cas des Pays-Bas. Pourquoi ? Parce que les Britanniques sont bloqués. Ils ont essayé de monter une opération
aéroportée. Montgomery
à Arnhem. Cette opération a loupé. Le pays est coupé en deux. Et le proconsul allemand qui s'appelle Seyss Inquart mène une politique particulièrement odieuse, car comme sur ordre des pouvoirs réguliers néerlandais, les cheminots ont été appelés à faire grève, les cheminots s'évaporent, et donc il n'y a plus de contact entre le sud libéré et le nord occupé, ce qui veut dire que les marchandises ne passent pas d'une zone à l'autre. Et donc vous allez avoir une terrible famine qui va se produire, c'est ce qu'on appelle l'hiver de la famine. Vous allez avoir de 10 à 15 000 néerlandais qui vont mourir. Et donc, bien entendu, ici, la résistance est complètement désarmée face à ces images d'apocalypse. Et puis ensuite, et enfin, au Danemark et en Norvège, vous l'avez dit, eh bien, les Allemands sont là, les Allemands sont très nombreux. Vous avez des dizaines de milliers de soldats allemands qui cantonnent encore au Danemark et en Norvège en 1945. Et là, la résistance ne peut quasiment rien faire. Ce qui montre justement que l'action de la résistance peut être efficace quand elle est corrélée à l'action de troupes régulières, la résistance n'avait absolument pas les moyens seule de défier l'occupant allemand au Danemark et en Norvège. Et d'ailleurs, ni les Britanniques ni les Américains n'ont lui ont demandé de tenir ce rôle.
Donc la question de la coordination, et notamment de la communication, est très importante entre Londres et ces différents pays.
Donc bien évidemment, tout ce qui est communication est capital. Et c'est de ce point de vue que les Britanniques et les Américains ont véritablement aidé la résistance à se structurer. On a tous en tête les images des documentaires ou des films. Que fait un résistant le plus souvent? Il passe son temps à porter des messages et à en recueillir d'autres. Donc vous imaginez, dans les conditions de l'époque, vous avez un responsable danois qui explique qu'il a mis 16 heures pour aller du Jutland à Copenhague. Donc la manière de communiquer de la résistance intérieure, la manière de donner des ordres, de donner des consignes est très lente, même quand elle utilise la presse clandestine. Et là, de ce point de vue, bien entendu, la BBC offre une solution tout à fait géniale, puisque si la BBC dit « maintenant, c'est l'heure d'agir », immédiatement, elle va pouvoir toucher des dizaines de milliers, des centaines de milliers, voire des millions de personnes, et donner un ordre clair, qui peut être une consigne générale, qui peut être aussi une consigne particulière, adressée à tel réseau, adressée à tel mouvement. Donc, cette question des transmissions a été centrale grâce à la BBC, mais également grâce aux liens, développés par les services spéciaux et les résistances intérieures, qui sont de deux ordres, soit d'abord l'octroi de postes émetteurs-récepteurs, qui vont permettre une communication rapide. Pour le meilleur, la communication rapide, et pour le pire, dans les Pays-Bas, le premier chief organizer du SOE est parachuté et il est arrêté. Et les Allemands l'intoxiquent en lui disant « on sait tout, il y a une taupe en Angleterre qui travaille au SOE et qui nous a tout donné ». Et le type est… Alors ensuite, c'est un petit peu compliqué de savoir s'il a mené un double jeu ou un triple jeu, mais en tous les cas, il accepte le deal que lui proposent les Allemands. Et donc, il intoxique les services britanniques, il émet en apparence librement, mais en fait, il émet sous la dictée allemande. Et comme il reçoit tous les messages qui annoncent l'arrivée d'agents du SOE, eh bien, les agents du SOE se font cueillir dès qu'ils sont parachutés. C'est un England-Spiel qui a fait couler beaucoup d'encre. Est-ce que les Anglais ont laissé faire, sciemment, pour intoxiquer les Allemands qui les intoxiquent? Est-ce qu'au contraire, le SOE a été victime de sa légèreté, ne comprenant pas les messages d'erreur que le malheureux agent mettait dans ses messages, hein, de temps en temps, il faisait des fautes d'orthographe, et logiquement, ça aurait dû attirer l'attention, sauf que les types se sont dit « ils parlent mal anglais ». Bon, voilà. Donc la question reste posée, toujours est-il que la résistance ici a été réduite à l'impuissance, précisément à cause de ces liaisons. L'autre élément qui est important, c'est bien évidemment les liaisons aériennes ou maritimes. Alors, ces liaisons aériennes, elles sont assurées le plus souvent par, d'une part, des petits appareils qu'on appelle les Lysander, qui vont infiltrer ou exfiltrer des agents. Elles peuvent être parfois utilisées par elles peuvent être parfois assumées par des appareils plus gros, des Hudson, mais là, c'est plus rare. Les liaisons, elles peuvent être également assurées par bateaux, c'est le cas de la Norvège, pour des raisons climatiques, pour des raisons de rayon d'action. Vous avez une chaîne qu'on appelle le Shetland Bus, qui opère des îles Shetland vers la Norvège avec des bateaux de pêche d'abord, des dragueurs de mines ensuite, et qui amène des hommes et du matériel aux Norvégiens. Et puis vous avez les livraisons d'armes qui, là, s'opèrent par bombardiers et qui, là encore, sont toujours jugées insuffisantes pour des raisons tout à fait légitimes par la résistance intérieure.
À la fois pour des difficultés de vol des avions et pour des difficultés de prévenir les résistants sur place pour recueillir ce qui va être parachuté.
Alors, si vous voulez, là, j'ai essayé d'être vraiment très scrupuleux parce que le grand discours des résistants, c'est Londres a peur du peuple en armes. Voilà. Donc Londres ne nous arme pas parce qu'il a peur que les armes... Bon. Donc j'ai essayé de faire un bilan. Alors, il est clair, si vous voulez, que la guerre subversive est mal considérée par les militaires de profession et notamment par les responsables de l'air. Donc les responsables de l'air ne sont jamais ravis de donner des bombardiers au SOE pour qu'ils parachutent des armes. Ils pensent que l'on va pouvoir gagner la guerre en bombardant l'Allemagne et non pas en envoyant des armes aux résistants. Donc il y a déjà un premier bas de fer. Ensuite, ce qu'il faut voir, c'est que envoyer des armes, c'est super compliqué. Bon. Alors, vous avez des résistants qui ironisent parce qu'ils avaient demandé des stènes et ils se retrouvent avec des grenades, parce qu'ils avaient demandé du plastique et qu'ils se retrouvent... Bon, donc ils n'ont pas ce qu'ils veulent. Mais il faut se rendre compte qu'avec tous les pays d'Europe, toute la diversité des formations résistantes, eh bien, les Britanniques et les Américains n'ont pas la possibilité de faire du sur-mesure. Et donc, ils vont mettre en place un système de standardisation. C'est-à-dire qu'ils vont élaborer un système où vous n'allez avoir que quatre types de containers. Voilà. Vous allez avoir le container 1 qui contient, je ne sais pas, X Sten, Y grenade, etc. Le container 2, le container 3, le container 4, point barre. Parce que si vous ne standardisez pas, vous perdez du temps. Et c'est énorme le temps qu'on peut perdre à empaqueter des armes dans un conteneur. Bon, donc on ne peut absolument pas faire une liste précise. Alors ensuite, bon, bah, l'avion s'envole, décolle. Bah, il faut qu'il ne soit pas abattu par la défense contre avion, la DCA allemande. Il faut que des chasseurs ne l'abattent pas en vol. Et il faut également qu'il trouve son chemin. Or, les erreurs de navigation, les erreurs de pilotage sont monnaie courante, surtout quand le mauvais temps est là.
Les vols avaient lieu les jours de pleine lune, enfin alors, les nuits de pleine lune plus exactement.
Les vols de l'ARF ont lieu les nuits de pleine lune, les vols des Américains se déroulent en plein jour, pour les bombardements comme pour la livraison au maquis. Et ensuite, bah, il faut qu'il y ait des équipes de réception. Il faut qu'il y ait des équipes de réception, il faut qu'elles soient présentes, il faut qu'elles puissent au départ allumer des feux pour guider les appareils, leur montrer qu'elles sont là. Et il faut qu'elles puissent réceptionner les armes et les évacuer.
Rapidement.
Rapidement. Alors, un jour, par exemple, vous avez les Danois.
Hein, vous le dites,
voilà, ça. Les Danois, ils sont très contents, ils entendent le bruit des avions. Mais simplement, ce n'est pas trois avions qui se présentent, c'est 16. Donc, comment fait-on pour évacuer 16, le contenu de 16 avions qui, en gros, charrient 12 conteneurs? Bon. Alors que l'essence manque, etc., etc. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus compliqué.
Et que le Danemark est un petit pays.
Donc, où bien évidemment, les allées et venues suscitent la curiosité de la Gestapo. Donc vous voyez, l'idée que bah, les alliés n'avaient qu'à parachuter des armes, bah, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus compliqué que cela.
Bon, cela dit, en même temps, les autorités militaires pensaient que l'apport des résistances intérieures était quand même... marginal et que la guerre se gagnait principalement par les armées anglo-américaines.
Alors, cette guerre subversive, dont j'ai déjà expliqué que les Britanniques la considéraient comme légitime, elle est en même temps considérée comme relativement mineure par les stratèges anglo-américains. La bataille ne va pas se décider sur le terrain de la guerre subversive, ce qui explique effectivement qu'il y ait eu une réticence à armer les résistances intérieures. Mais tout va changer. Tout va changer en Italie, où, je l'ai dit, à partir de 1944, la résistance immobilise une partie des forces allemandes, ce qui sert bien les armées alliées, tout simplement parce que toute une partie des effectifs qui combattaient en Italie est retirée du front italien pour servir au débarquement de Provence, et c'est le cas notamment des divisions françaises qui combattaient sur ce théâtre d'opération sous la direction du général Juin. Et donc du coup, on s'aperçoit, hein, les stratèges anglo-américains se disent « Tiens, cette résistance, quand même, elle rend des services. » Et le second choc, c'est le débarquement du 6 juin 1944, où là, la résistance est au rendez-vous. Elle est au rendez-vous parce qu'elle réussit à couper le trafic ferroviaire. Vous avez un trafic ferroviaire qui va chuter de moitié. Cette résistance, également, elle est disciplinée. Et cette résistance, elle assume des missions que les armées régulières n'aiment pas assumer, garde de prisonniers, garde d'ouvrages d'art, hein, le viaduc de Morlaix, etc., etc. Et donc, elle permet cette résistance aux armées alliées de se concentrer sur leur cœur de métier, qui est de faire la guerre. Et donc, à partir de ce moment-là, vous allez avoir un revirement total, c'est vraiment la bonne surprise, et là, une pluie de containers, ça va sur la France, sur l'Italie, sur la Belgique.
Alors maintenant, je voudrais poser une question sur votre méthode. Je voudrais savoir, parce que votre matière, en quelque sorte, à explorer était donc très large, très vaste. Et je voudrais savoir comment vous avez travaillé pour explorer dans le détail, un détail qui est toujours très précis, avec les notes qui renvoient aux références. Je voudrais savoir comment vous avez travaillé pour organiser tout ce travail.
Alors, ça a été un gros travail d'archives. Et ce que j'ai essayé de faire, c'est d'être précis et en même temps, je l'espère, clair et pas rébarbatif. C'est-à-dire que vous avez quand même des morceaux absolument incroyables, des anecdotes, des détails. Alors, des anecdotes parfois tragiques. Quand l'un des premiers chief organizers du SOE est parachuté en Belgique, son parachute se prend dans la dérive arrière de l'avion et l'avion revient avec le corps glacé par le froid et glacé de terreur. Et c'est son chef qui est obligé de l'accueillir, ce qui est un souvenir horrible pour le responsable de la section belge du SOE. Donc voilà ce genre d'histoire. Et puis d'autres histoires plus drôles, qui est celle, par exemple, que j'adore, qui est le général de Gaulle qui parle le 6 juin 1944. Vous le savez, ça a été assez compliqué pour le général de Gaulle. Et donc les Britanniques, Eisenhower, demandent que de Gaulle parle à telle heure. Et de Gaulle dit « on ne va pas me dicter la loi ». Hein, et je ferai le discours que je veux au moment où je veux.
En l'improvisant.
En l'improvisant. Et donc de Gaulle, dans ses mémoires, raconte qu'il parle à 18h, ce qui est vrai, mais un peu flou sur les conditions. En fait, de Gaulle a exigé de parler en direct et il arrive dans les studios de la BBC à 12h15. Et là, les Britanniques veulent, bien entendu, voir le texte que de Gaulle va prononcer pour le censurer, le cas échéant. Mais comment faire pour convaincre de Gaulle d'être enregistré et donc, le cas échéant, d'être censuré? Et là, le patron de la BBC a un éclair de génie. Il dit « Mon général, vous allez parler. » Oui. C'est le discours le plus important, sans doute, de votre vie. Mais vous le savez, mon général, quand vous parlez, c'est la France qui parle. Oui. Et quand la France parle, c'est à l'univers qu'elle s'adresse. Nous avons donc besoin de vous enregistrer pour vous traduire. Et de Gaulle dit « J'y consens ». Et donc les patrons de la BBC sont hyper énervés et le texte est envoyé à Anthony Eden qui sursaute parce que de Gaulle dit voilà, c'est la bataille de France. J'ordonne aux Français d'obéir aux ordres que mon gouvernement donnera. Or, à l'époque, le gouvernement n'est pas reconnu. Donc, est-ce qu'on peut accepter ça? Et Eden dit laissons passer. De Gaulle parle, donc énervement total pour l'incident que je viens de décrire. De Gaulle parle, la magie du verbe, tout le monde pleure dans le studio. Voilà, bon. Donc voilà, on a ce genre. Alors, la méthode, c'est que j'ai raisonné par arborescence, c'est-à-dire que j'ai pris, je le rappelle, gouvernement en exil, pouvoir en exil, propagande, services spéciaux, et bien à chaque fois, vous avez des fonds d'archives qui sont corrélés à ces divers domaines. Donc j'ai étudié les archives du ministère des Affaires étrangères britannique et du ministère des Affaires étrangères américain, les archives de l'OSS et les archives du SOE, et les archives des services en charge de la propagande, le Political Warfare Executive pour les Britanniques et l'Office of War Information. Voilà, donc c'était un très gros travail d'archives, mais avec des découvertes que j'espère
Donc avec des archives qui se trouvaient principalement donc, en Angleterre, alors.
À Londres et à Washington. Surtout, oui.
D'accord. Eh bien, merci.
Merci à vous.